Verveine.
What's happening? What's happening?
Hey. Underground.
Verveine Underground.
Eric s'intelligente pour contrôler la discothèque.
20h, 22h sur Europe 1.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure.
Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales. Nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre.
Ça, c'est grave!
Je suis de retour avec ma sous-culture. Ouais, sauf que c'est nous le futur, hein.
C'est nous le futur.
Underground.
Bonsoir et bienvenue dans Verveine Underground. On se retrouve chaque soir sur Europe 1 de 20h à 22h avec des invités qui viennent se raconter en musique. Et ce soir, dans les studios d'Europe 1, une légende vivante, une légende de la musique. Il a été le chef d'orchestre de la plus grande époque des nuits parisiennes. Il a fait les belles heures du Palace, la célèbre boîte de nuit. C'est Guy Cuevas. Bonsoir Guy, comment ça va ?
Bonsoir, bonsoir. Merci Mouloud de m'inviter, de me recevoir. Merci.
Je suis extrêmement honoré d'être en votre présence. Vous êtes une légende de la musique, vous êtes un passeur, vous êtes un découvreur, vous êtes un défricheur. Et vous venez de sortir la compilation Total Cuevas et ça donne ça. Cuevas, vous sortez également Avant que la nuit ne m'emporte aux éditions du Cherche Midi, écrit en collaboration avec Jean-François Kervéan.
Salut.
Vous racontez votre parcours de Cuba, où vous demandez un permis de sortie à Fidel Castro à Paris,
oui.
Où vous connaissez la pauvreté, les amitiés et les nuits parisiennes.
Oui.
Votre vie à Cuba, elle commence comme le début du film Scarface, en fait.
Oui, à peu près, oui.
Racontez-moi.
Oui, ambiance cubaine.
Oui.
Petit garçon, solitaire, puisque mon père était un tosseux, que ma mère était femme au foyer, qu'on ne parlait pas, en famille, on ne parlait pas. Le repas était en silence. Donc moi, j'avais déjà, d'une façon innée, cette envie de culture. J'étais un rat de culture, de bibliothèque, de spectacle, de théâtre. J'ai traîné parfois ma mère. Mais si elle ne venait pas, j'y allais tout seul. Et je me suis formé comme ça, j'écoutais toutes sortes de musique.
Vous avez grandi à La Havane, au moment charnière où Fidel
Absolument.
Castro arrivait au pouvoir.
Absolument.
Famille de classe moyenne, à 18 ans, vous dînez chez une amie maîtresse de Fidel Castro.
Oui, c'est ce qu'on disait.
Qu'est-ce
qui
se passe?
C'est ce qu'on disait, hein. J'étais témoin de ça, mais c'est une actrice du Uruguay, oui, en effet. Il devait y avoir quelque chose, parce qu'un soir de Noël où elle m'avait invité, on était 7 ou 8 à convives, et puis tout d'un coup, la porte, on toque à la porte, il y a deux soldats, et entre les deux, il y a un grand commandant qui arrive avec un jambon, un cadeau pour elle.
Et c'était qui ce grand commandant?
C'était Fidel Castro.
Alors, racontez-moi le premier contact avec Fidel Castro.
J'ai failli tomber de la chaise parce que, comme d'habitude, j'étais mineur. Mm-hmm. Je venais d'avoir 18 ans. Et tout ce que je voulais absolument quitter Cuba parce que Fidel, justement, venait d'instaurer le service militaire obligatoire qui était prévu pour 3 ans avec l'endoctrinement, changer le cerveau, marxisme, et à couper la canne à sucre à 40 degrés. C'était très peu pour moi, ça. Je voulais absolument sortir. Ça faisait un an que je faisais des petites choses par-ci, par-là, pour qu'on m'aide. Personne ne m'aidait. Et là, j'ai profité, justement, peut-être l'élan que j'étais chez Margarita. Ça m'a donné un peu de force. Et il a commencé à demander à chaque convive, hein, qu'est-ce qu'on faisait tous. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Il est arrivé mon tour. Et je lui ai dit, de bout en bloc.
Vous vouliez quitter Cuba?
Je n'ai pas dit quitter Cuba, ces mots étaient un peu forts quand même. Je devinais que ce n'était pas la peine de dire ça. Je dis la vérité, que j'avais un cousin à Paris qui habitait depuis des années, qui travaillait à l'UNESCO, et qui m'avait fait une lettre d'invitation. Jusque-là, c'était vrai.
Et après
le fameux cousin, après, n'a pas voulu s'occuper de moi, parce que je crois qu'il avait envoyé l'invitation en pensant que je n'allais jamais sortir. Et finalement, j'ai pu sortir. Fidel Castro, quand je lui ai dit ça, il s'est gratté la tête. J'ai expliqué, il a rigolé parce qu'il s'est dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce jeune homme en train de me demander ça ?» C'était jamais vu. Et finalement, non, il m'a donné un prénom de femme, Encarnita, sur un bout de papier. Il m'a dit « Tu vas la voir lundi, on était un vendredi. » Et quand je suis arrivé, cette dame était la secrétaire du commandante Rafael del Pino, ministre des Forces armées. Et quand je suis arrivé dans son bureau, elle m'a dit « Tu veux partir quand ?»
Waouh.
Et j'ai cru, je n'avais rien préparé. Je n'avais strictement rien, parce que j'étais mineur, donc il aurait fallu... C'est ce qu'elle a fait, elle m'a expliqué tout ce qu'il fallait. D'abord, que j'ai une décharge de mes parents pour me permettre de sortir, mais j'étais mineur. Ensuite, comme je sortais par la voie officielle, parce que Castro avait signé mon permis de sortir. Ça, c'est le truc miraculeux. Mm-hmm. C'est à partir de là que tout s'est ouvert. Un tapis vert olive s'est déployé sur moi.
Est-ce que vous pouvez expliquer le risque que ça représentait, en fait?
J'aurais pu aller en prison.
Pour la génération, pour qu'on ait conscience du risque
j'aurais
que ça représente.
J'aurais pu aller en prison, tout simplement. Il y avait d'autres cas. Il y avait des gens qui partaient en prison, mais j'ai risqué le tout pour le tout. Mm. Là, c'est tout. Il ne m'est resté que ça.
Et ce goût du risque, comment est-ce que vous l'avez cultivé, Guy Cuevas? Parce que votre vie est une succession de prises de risques.
Mais pour un grand, grand timide. Moi, je rentrais dans les salles de cinéma quand il n'y avait pas de lumière, tellement j'étais timide. Mmh. Complètement timide, renfermé. Puis en plus, à force de ne pas parler, parce que dans ma famille, on ne parlait pas, et on me dialoguait sur rien. Donc, je ne sais pas, je me faisais violence.
Pourquoi est-ce que c'est important de savoir prendre des risques dans la vie, Guy Cuevas?
Parce qu'il faut tordre le cou à la chance, il ne faut pas la rater quand elle se présente. Il faut même souvent la provoquer. Parce qu'elle ne vient pas forcément toute seule. C'est pas dit comme ça. Non, non, non. Il faut être alerte, il faut rester alerte. Il faut, même quand on traverse un tunnel, ce qui m'est déjà arrivé aussi, il faut rester alerte pour ne pas rater la sortie du tunnel. Il ne connaît pas, c'est le thème de l'une de mes chansons de mon anthologie. Mais sinon, non, oui, j'ai tordu chaque occasion que je pouvais, que je sentais. Parce qu'avant Fidel Castro, j'avais vu le Che Guevara aussi.
Racontez-moi le Che Guevara.
Ah ben là, par contre, non, j'ai bien senti tout de suite qu'il n'allait rien faire. Le Che, finalement, était presque plus dangereux que Fidel Castro. Sauf que je ne le savais pas, j'étais naïf. J'allais voir comme ça, avec ma naïveté complète. J'étais jeune, insouciant, voilà. Je demandais, c'était plus facile qu'ici, hein, ça serait... On demande un rendez-vous et on l'obtient. Et dès que je commençais à dire toujours pareil, que j'avais une invitation pour faire passer la chose, je n'allais pas dire je vais quitter le pays. Et j'ai compris tout de suite qu'il n'allait pas m'aider.
En quoi est-ce que le Che était plus dangereux que Fidel Castro?
Parce qu'il paraît que déjà à ce moment-là, mais je ne l'ai su qu'après, il voulait changer, il voulait faire l'homme nouveau à Cuba. Et il voulait déjà que le socialisme devienne pur et dur, que devienne plus un satellite des Russes, etc., etc. En plus, c'était quelqu'un qui aimait, mais il l'a fait d'ailleurs après, qui aimait la guérilla. Il n'était pas fait pour être derrière un bureau, pour les choses établies, on a gagné, on est là. Non, 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 il voulait continuer à battre, à combattre, à tuer. C'est ce qu'il a fait. Il est reparti dans les montagnes, il s'est fait tuer.
On est avec Guy Cuevas dans Verven Underground. Ne bougez pas, on revient dans un instant.
Mouloud Achour, 20h-22h,
Verven Underground,
sur Europe 1.
Guy Cuevas est avec nous dans les studios d'Europe 1. Sa vie est incroyable, son histoire l'est encore plus et son talent est immense. J'aimerais qu'on écoute un extrait de Total Cuevas, Obsession de Nasso Mix. We'll be right back. On vient d'écouter un extrait de Total Cuevas de Guy Cuevas. Et Guy Cuevas est dans les studios d'Europe 1 avec nous aujourd'hui dans Verven Underground. Guy Cuevas, immense DJ, immense sélecteur, avec une vie incroyable. On racontait vos débuts à Cuba, la rencontre avec Fidel Castro. Vous arrivez en France en 1964 à Paris. Est-ce que vous pouvez me raconter votre premier souvenir de Paris ? Première chose que vous avez vue.
J'avais faim, j'avais froid, j'avais tout contre moi. Mais je m'en foutais. J'étais à Paris. C'était ça qui comptait. Encore une fois, là, il faut savoir, vous voyez, ceci a la chance. Et c'était ça, j'étais à Paris, donc tout me séduisait. J'ai ouvert une fenêtre d'un petit hôtel où on m'avait mis la première nuit, mon fameux cousin qui n'a pas voulu me recevoir chez lui. Et quand j'ai ouvert, je mourais de froid, mais il y avait les toits de Paris, les toits dont j'avais rêvé en regardant la nouvelle vague. Tous les films de Truffaut, de Lumal. Voilà, il y avait les toits, et puis au loin, là-bas, il y avait la tour Eiffel. Non, mais je rêvais. Donc déjà là, ça m'est calmé. Et puis en plus, j'avais réussi mon pari, que j'avais quitté, et puis j'étais arrivé à bon port. C'était surtout.
Qu'est-ce qu'il y a de magique dans Paris pour vous, Guy Cuevas ?
Mais tout me plaît ici, mais je ne sais pas pourquoi, d'une façon innée. J'ai toujours aimé Paris, même dans les films et les comédies musicales américaines qui parlaient de Paris, de l'Europe, de la France, etc. J'étais séduit par tout ce que je voyais. Puis j'étais un rat de cinéma également. Donc tous ces films de la Nouvelle Vague que je viens de nommer, mais je me les apprenais par cœur. C'est comme ça que je pratiquais beaucoup plus mon français, d'ailleurs que je parlais déjà. Mais il fallait les pratiquer.
Vous écoutez Verven Underground, on se retrouve dans un instant sur Europe 1.
Mouloud Achour, 20h-22h.
Verven Underground.
Underground
sur Europe 1.
Guy Cuevas, donc vous arrivez à Paris en 1964 et vous débutez à Saint-Germain-des-Prés dans un bar qui s'appelle Le Nuage.
Oui, on a fait un petit saut parce qu'il y a eu des galères qu'on va sauter, effectivement, cette période-là, qui n'a pas duré trop longtemps, finalement. Mais il y a eu quand même quelques galères. Mmh. Et on m'avait amené au Cherylène, à rue du Ciseau, qui est la première boîte où j'allais, en client. C'était une bande que j'avais trouvée aux fleurs. Et j'avais adoré Ralph, un DJ qui était en train de passer Good Vibrations, mmh. Beach Boys, les Beatles, les Rolling Stones, tout ce que je connaissais déjà, Radio Luxembourg. Et mélangé avec Diana Ross, and the Supremes. Je me disais, tiens, ça me plairait. Un petit Charleston, par-ci, mmh. par-là. Ce mélange arbitraire, comme ça, me plaisait déjà. La boîte était très branchée, très in. Ensuite, à la même bande, du Flore m'a amené un jour au Nuage, justement. Et là, comme je suis en bout en train, il paraît, parce que je suis latin. Tout simplement, il n'y a rien d'exceptionnel, je suis latin. Donc, j'ai la musique dans le crâne, dans les oreilles, partout où je suis né avec. Donc, voilà, comme j'ai invité les gens à danser, je souriais, je dansais bien, je chantais par-dessus, etc. J'étais un ambianceur. Donc, du coup, Gérald Nanty, qui était le relations publiques, le directeur, m'a demandé un jour, est-ce que tu ne peux pas t'occuper de la musique? C'est comme ça que ça t'est arrivé.
Et
je ne l'avais pas choisi.
Vous vous souvenez du premier disque que vous avez joué?
Le tout premier disque.
Ouais. Non.
Je sais que c'est l'époque, c'est le moment de What's Going On, l'album sublime de Marvin Gaye, mm-hmm. que je l'ai passé en long, en large, beaucoup.
Ça vous dit pas qu'on l'écoute ensemble?
Oui.
On écoute What's Going On,
yes.
sur Europe 1.
Mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer. For only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Right on. Yeah. Oh.
On vient d'écouter Marvin Gaye, What's Going On, et on est avec DJ Cuevas. Guy Cuevas, avant qu'on donne le mot DJ, vous étiez Guy Cuevas.
Oui, oui. Il paraît que le métier n'existait pas. Mmh. On disait passeur de disques à l'époque.
Passeur de disques.
Oui, oui, oui. Et puis voilà, c'était un mélange, on est encore en nuage, c'était un mélange de 45 tours que j'avais sauvé dans ma valise de Cuba, des choses que je trouvais au plus pour rien, pour 20 centimes. Des opérettes cubaines ou d'ici, c'était complètement loufoque, complètement arbitraire, un métissage total. Je suis métisse moi-même, je viens de blanc et de noir, donc je crois que je prenais ça dans tout, dans ma façon de vivre, dans ma façon d'agir, de bouger, dans ma musique, dans ce que j'écris également.
En quoi la musique a changé votre vie, Guy Cuevas ?
Elle l'a bouleversée, puisqu'au départ, comme je voulais écrire, parce que ça me facilitait la vie en tant que grand timide. J'ai eu une bourse accessoirement aussi de la Fondation Ford aux États-Unis qui me donnait. C'est ça qui m'avait sauvé des galères du début. C'était 3 000 $ en 4 versements dans l'année. Et comme toujours, l'argent appelle l'argent. Donc à partir de là, voilà. Et là, j'habitais Lille, il y avait le Furet du Nord, où il y avait une énorme boutique. Mais là, c'était un aéroport de vinyle. Et il y avait des endroits pour écouter derrière. Mais on passait la journée presque à écouter, à découvrir, Nice, c'était la grande époque, un peu hippie, un peu flower people, Nice, Love, plein de groupes comme ça qui ont un peu disparu, mais que j'adorais. La musique blanche, la côte ouest également.
Guy Cuevas, on va continuer à raconter votre histoire. Vous rencontrez Fabrice Aimer, qui vous engage au 7. C'était un restaurant hors de prix au rez-de-chaussée. Et...
C'est vrai, c'était si cher que ça.
Oui, c'est ce qu'on dit. Moi, j'étais encore un enfant.
Oui.
Et là arrive une aventure qui est le Palace.
Oui.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'était le Palace pour les gens qui ne connaissent pas ?
On s'arrête une seconde d'abord au 7 pour qu'on comprenne. Parce que c'est le succès du 7 qui nous a permis d'aller au Palace. Le 7, il y avait le restaurant au rez-de-chaussée, comme vous venez de le dire, avec un bar qui zonnait face au restaurant. Où il y avait la terre entière déjà là, qui était là. J'ai vu tout le monde. J'ai vu par exemple Picasso, Jean Moreau, Pierre Cardin, André Putman, le roi de Suède. J'ai vu tout le monde. Mmh. Et en bas, il y avait une discothèque qui était beaucoup plus grande déjà que le nuage. Beaucoup plus grande. Une piste où je pouvais recevoir 100 danseurs. Donc quand Fabrice m'a proposé de venir là, mais là, encore une fois, j'ai attrapé la chance qu'il s'est présenté à moi. Parce que le travail que j'avais commencé à faire, mes idées complètement loufoques au nuage, mais là, j'allais pouvoir me donner à cœur joie. Surtout que la clientèle du 7 venait un peu d'Amérique, moi-même. Je viens d'Amérique, donc ils sont en bon goût musical,
une oreille musicale. Il y avait qui au 7 ? David Bowie, Grace Jones.
Ah oui, ben Grace Jones, c'était notre grande copine, parce qu'elle habitait Paris, ça marchait pas pour elle, elle était la maîtresse. Du responsable du restaurant du 7. Donc, elle était tout le temps avec nous. Oui.
On va évoquer des noms et vous allez me dire ce que ces gens, quels souvenirs vous avez avec David Bowie.
On m'a amené un soir, il s'est assis à côté de moi, extrêmement timide. Je voulais pour lui faire plaisir, passer un morceau. David Bowie. Et non, et voilà, je cru tomber de ma chaise quand il m'a demandé Barry White. Éloigné totalement de ce que je croyais qu'il allait me demander.
David Barry White. Bowie voulait écouter Barry White.
Oui. Oui, oui. Peut-être pour éloigner justement le public, on risque pas d'imaginer qu'il était là, etc. Très, très timide, très, très fermé. Et du coup, d'ailleurs, on est monté tout de suite, le restaurant venait de fermer, on était vide là-haut, dans une table. Lui, son ami qui l'accompagnait, et moi, tous les trois, à bavarder.
Francis Bacon.
Ah, alors là, grand peintre que je ne connaissais pas au moment où je suis arrivé, c'est Fabrice qui le connaissait bien. Je l'ai découvert par la suite. Et alors, il était l'image vivante avec ce qu'il peignait. Puisqu'il était sadomaso, maintenant on le sait, c'est dit partout, etc. Donc il venait sur sa gueule, sur tout son corps, avec les mêmes couleurs de ses tableaux.
Et il arrivait toujours tabassé, quoi.
Ah oui. Non. Et puis en plus, bon, reniflant pas mal, parce que c'est l'époque où tout le monde allait beaucoup aux toilettes.
Ouais, pour prendre de la drogue.
Je mentionnais peut-être.
De la cam.
Oui.
Et comment vous avez évité, vous, la cam ?
Ah, mais je ne l'ai pas évité. Elle m'a frôlé. Donc, je n'achetais pas. Je ne suis pas tombé dedans. Je ne suis pas mort, la preuve. Mais on n'est jamais à l'abri d'une ligne qui passe.
Ouais, c'est ça.
Et une invitation. Et quand en plus, ça venait l'invitation de gens que je respectais, comme le Louvre de la Falaise, une des femmes les plus exquises que j'ai vues au monde, que j'ai connues de ma vie, qui était le bras droit de Yves Saint Laurent. Elle, quand elle m'a invité, moi, c'est trop facile de dire oui.
Vous êtes d'une génération, Guy Cuevas, où...
On me dit oui, déjà, aux invitations.
Oui. Vous êtes d'une génération où la drogue a décimé beaucoup de gens, beaucoup d'amis, beaucoup de copains.
Oui.
Et au début, c'était cool et c'était super.
Oui.
Et c'était normal d'en prendre en soirée dans votre génération.
Oui.
Et aujourd'hui, en 2022, dans la musique, beaucoup d'artistes normalisent même la cocaïne. Et ces drogues-là, est-ce que vous avez un message à leur passer, vous qui avez perdu des copains à cause de
il faut, ah, beaucoup, oui. Non, il faut faire attention, parce que ce qu'on n'explique pas bien, c'est que, je parle de la coke, hein, pas de l'euro, mais la cocaïne, au début, on se croit les rois du monde. C'est extrêmement agréable, parce qu'on est désinhibé, ça désinhibe complètement. On a envie de passer l'aspirateur, de tout faire, on croit qu'on va tout réussir. Si on met la musique, j'avais l'impression que j'avais une main qui mettait les idées pour mettre les disques, etc. Donc, le début, mais c'est ça qui est dangereux. C'est parce qu'on croit que si on continue, ça va continuer à être cet effet-là. Et c'est là où on s'aperçoit à quel moment ça bouscule dans l'horreur. Ça bouscule dans complètement autre chose. À petit, on devient un petit peu accro. Et pour avoir l'effet du début, mais on n'est plus. C'est pas une ligne qu'il faut, c'est un gramme ou un gramme et demi. Donc là, ça y est, c'est fini, là. On est parti, là, et puis bientôt, on va prendre dans la journée aussi un s'élevant. Donc c'est une horreur. Là, on s'en sort difficilement. Oui, effectivement, j'ai vu beaucoup de copains partir.
Et comment est-ce que les gens arrivent à rendre ça cool alors que c'est pas cool du tout?
Peut-être parce qu'ils n'ont pas vu l'effet encore néfaste que je viens de décrire. Ou peut-être, comme ça a été le cas de Jean-Luc Delarue avant de mourir, qu'il avait tellement d'argent, mais il l'a dit hein, après, quand il a fait son mea culpa, qu'il était arrivé à prendre 6 grammes dans la journée. Mais comment on peut prendre 6 grammes dans la journée? Il l'avait dit lui-même. Je n'exagère rien. 6 grammes parce qu'on ne s'aperçoit pas, parce qu'on continue. Et que comme ce que je disais tout à l'heure, faire une petite ligne, ce n'est plus le même effet. Bon, on continue, et puis on devient addict. Donc on pense qu'à ça à la fin.
Moi, en tout cas, je suis totalement anti-drogue et je n'ai pas honte de le revendiquer.
Ah oui, non, mais il faut.
Donc ça va, on a le droit d'être anti-drogue et de ne pas être un ringard.
Ah, ben, je n'ai plus rien touché depuis beaucoup d'années. Je me suis éloigné totalement de tout ça.
Moi, vous savez, il y a une drogue en ce moment que je veux dénoncer, c'est les ballons. Vous connaissez les ballons? C'est des jeunes qui prennent des ballons. Donc,
ah oui, oui, ils rigolent.
C'est ça.
Oui, c'est un gaz, non?
Exactement.
Oui, c'est ça, j'ai entendu. Oui.
Et en fait, il y en a plein qui finissent avec le visage déformé, le cerveau cramé.
Enfin,
on commence à avoir des pathologies assez dingues.
Et ça coûte pas cher pour aller.
Parce que ça coûte pas cher. Il y a même des artistes qui prennent du ballon. Qui se retrouve avec une jambe coincée. Mais si.
Mais non.
C'est encore un tabou. Il y a même quelques rappeurs qui ont des problèmes physiques maintenant à cause du ballon.
Mon Dieu.
C'est grave en fait ce qu'on peut prendre.
Non, c'est très grave. C'est encore une fois, c'est parce qu'on se laisse aller, on a l'impression. Mais j'en connais que certains de mes amis artistes, je ne cite pas, mais qui pour se donner du courage au moment de rentrer en scène, au moment d'y aller, parce qu'il faut y aller, il faut avoir du courage quand même pour faire face à un public qui est là, qui vient pour toi. Donc il faut. Et puis ce courage, je pense que c'est là, avec une petite ligne, les choses. Voilà.
Est-ce qu'on a besoin de drogue pour se laisser emporter par la musique, Guy Cuevas?
Ah non, mais j'ai eu les deux exemples. J'ai eu l'exemple au début où je me suis laissé aller, mais pas. J'ai jamais été non plus la lune dans le caniveau. Hein. Je n'ai jamais été traîné par terre en train de baver, etc. J'ai jamais été malade, ni overdose, ni rien. Mais j'aurais pu y arriver. Et je me suis sauvé moi-même parce que justement, je le voyais, mais c'était le même Bacon, on parlait de lui. Francis Bacon, à chaque fois qu'il sortait de toilette, mais c'était pour un peintre aussi connu, aussi talentueux, voir quelqu'un comme ça.
Détruit.
C'est une horreur.
En tout cas, Guy Cuevas, vous êtes vivant et en forme. Et c'est l'amour de la musique qui nous maintient et qui nous réunit dans Verveine Underground. Et j'aimerais qu'on écoute un extrait de votre playlist Dr. Buzzard's Original Savannah Band avec le morceau « Cherchez la femme ». Racontez-moi ce morceau.
Bah, c'est parce que c'était la vague portoricaine qui était, que j'ai connue après à New York aussi. Mais c'était Antonio Lopez, un graphiste de mode, qui habitait Paris à ce moment-là, qui avait découvert Jerry Hall, qui prenait des filles qui étaient sublimes, mais pas façonnées complètement. Mm-hmm. C'est ça, les grands esthètes. Ils font un dessin et à la fille de ressembler après à ce dessin, à ce croquis. Et il était aimé de tout le monde. Karl Lagerfeld dansait divinement bien. Comme il était portoricain, c'est lui qui m'a introduit à ces morceaux.
Guy Cuevas, on a parlé tout à l'heure de David Bowie et de Francis Bacon, et vous vous emboîtez le pas, vous avez toujours un disque d'avance, une vie d'avance. Karl Lagerfeld, racontez-moi.
Alors Karl, c'est le contraire. Karl, c'est le talent pur. Une fourmi de travail, une fourmi. Je ne sais pas, il est arrivé à faire 14 collections en un an. Mais il venait tout le temps, il s'asseyait, mais immobile. Je ne l'ai jamais vu ni boire de l'alcool, ni danser, ni parler fort, ni encore moins se droguer, rien. Et puis même, il paraît qu'il ne faisait pas l'amour non plus, donc rien. Quel est son travail ?
Quel travail ?
Ben, le travail de mode, de créateur, de photographe, qu'il est devenu par la suite avec beaucoup de talent également.
Vous avez eu des conversations avec lui ?
Ah oui.
Des souvenirs de ces conversations ?
Oui, parce qu'il s'est inspiré même de mon métier pour faire du foulard en crêpe de Chine où il y avait des ronds qui imitaient les ronds de mes vinyles, etc. Oui, oui. J'ai fait même un défilé pour lui, pour Chloé. Il travaillait à l'époque pour la marque Chloé.
Guy Cuevas, on a parlé du set. Expliquez-moi maintenant le Palace.
Alors, avec les succès du set, il fallait qu'on ait de plus en plus grand. Parce qu'on commençait à parler de nous dans le monde entier. Surtout grâce à une photo d'un défilé que j'ai fait pour 15 ans. J'ai défilé en tant qu'ami à côté d'une fille dont c'était son premier défilé. Il se trouve que c'était Inès de la Fressange. Et cette photo est sortie d'un interview. Et on l'a vu. Elle n'était pas marquée. Son nom n'était pas marqué en légende. C'était mon nom qui était marqué, Guy Cuevas, disjockey du Club 7. La photo a fait le tour du monde. Et Fabrice, en plus, qui était à l'écoute, lui aussi, pour prendre la chance. Fabrice et Maher. Et commencer à se dire, mais on est à l'étroit ici, il faut qu'on trouve plus grand. Il se trouve pile là, que Michel Guy, qui était le ministre de la Culture de Giscard d'Estaing, Michel Guy venait de classer monument historique le Palace, où il y avait des trous, il pleuvait à l'intérieur, il y avait des rats, etc., pour pas que ça devienne un parking. Et quand Fabrice l'a visité, il a eu le coup de foudre. Et nous avec.
Le Palace était l'endroit où tout le monde voulait rentrer. Où les fêtes, quand on nous le raconte, à nous, notre génération, on nous dit « Mais vous n'avez pas connu le Palace. » Qu'est-ce que je n'ai pas connu au Palace ?
Mais que c'était un moment universel, qu'il y avait la fête de l'humanité, mais pas l'humanité du journal. C'était la fête du monde entier. C'était tout le monde entier était représenté. On avait banni les barrières, on ne demandait rien. Pourvu qu'on ait un joli sourire, qu'on ait un super look, surtout un joli sourire à guicheur, voilà, agréable à la porte. Mais ben là, tout le monde pouvait rentrer.
Quelle est la soirée la plus dingue, la chose la plus mémorable que vous avez vécue?
Il y en a eu plusieurs. Il y a eu les balles à Venise, bien sûr, parce que les gens arrivaient en gondole. Comme je dis Bel Air, une figure à l'époque qui est restée à la porte du palace pendant un moment. Et la gondole s'est renversée, etc., etc. Et c'est les balles de Karl, les balles à Venise, qui s'est terminé avec des laquais au sous-sol, avec une minuée de valse pour servir un petit déjeuner. Il y a eu la fête du mariage de Loulou Lafalaise, qui était fastueuse. il y a eu Vice-Versa, organisé par Kenzo, les hommes habillés en femmes et les femmes déguisées en hommes. Il y avait Mick Jagger en femme, avec Jerry Hall, qui était sa femme, en mec. Et il y avait le bal Sissi Impératrice, par exemple, où il y avait les gros malabars, mais alors musclés, hein, c'était l'époque de bodybuilding. Mm-hmm. Musclés, les bras comme de jambon, et moustachus, en crinoline, en train de danser la valse que je mettais. Ça, il fallait voir. C'était des moments que... inouïs, on n'a jamais vu ça. Mais même en 54, hein, que j'ai bien connu à New York, et qui était déjà une boîte fabuleuse pour New York.
Le Studio 54, c'était boîte fabuleuse new-yorkaise. Il y a des anecdotes au Studio 54, comme notamment Michael Jackson, qui allait préparer Off the Wall là-bas pour écouter les DJ. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'était le début d'un changement d'air. Les DJ jouaient la musique des autres, et il y a un moment où les autres artistes se sont inspirés de la musique que jouaient les DJ.
Oui, oui. Ils avaient beaucoup de pouvoir. C'est le fameux moment aussi où, justement, on m'a fait découvrir de chercher la femme. Mais c'était très, très, très commercial. Ça fonctionnait. Ça marchait. Ça marchait. Il n'y a rien à dire. Il y avait des barman en plus qui avaient comme une chorégraphie torse nu, des beaux mecs en plus. Torse nu, en train de servir le verre, remplir le verre avec un pistolet. J'avais jamais vu ça. On aurait dit West Side Story, une chorégraphie. Mais commercial pur et dur. Vous à êtes... mon avis, pour moi, je voulais faire plus raffiné, c'est ce que je fais,
c'est
plus
ce que sophistiqué. Vous avez, fait, ouais. Vous avez défini la nuit parisienne. Aujourd'hui, moi, je suis de la génération qui n'a pas connu le Palace. J'ai connu le Baron. Et
oui.
Le Baron, c'était très inspiré voilà, de votre teneur et de votre goût musical à vous.
Oui, absolument, oui. Il y avait un mélange comme ça, oui.
Et quand on dit, par exemple, vous n'avez pas connu telle boîte, moi, aujourd'hui, si je parle à des plus jeunes, je leur dis, mais toi, tu n'as pas connu le Baron. Est-ce que ce n'est pas juste lié à notre jeunesse, tout simplement,
probablement,
ce truc-là.
Oui. Probablement, oui. De toute façon, vous ne pouviez pas faire autrement. C'est fait. Le Palace n'y est plus. Et ça ne reviendra plus jamais. La preuve. Parce que l'époque veut ça. L'époque ne reviendra plus jamais. Imaginez qu'à cette époque-là, il n'y avait ni sida, ni problème d'argent. Il n'y avait pas de chômage. Ça, les gens ne peuvent pas croire. Il n'y avait pas de chômage. Donc voilà. Et quand quelqu'un arrivait à la porte et qu'il n'avait pas trop de sous, il le disait avec un grand sourire. Mais au contraire, si on voyait qu'il allait mettre de l'ambiance, il allait danser, il allait inviter les gens, mais on lui offrait des verres. Ce qui m'est arrivé mille fois.
Qu'est-ce qui vous manque de cette époque ?
Ça, la création.
Dans l'humanité, dans la façon d'aborder l'humain ?
La création, c'est bouillonnement de culture, c'est bouillonnement de création, où on se sent utile, comme la fameuse chanson de Julien. Claire, oui, on se sent utile toute la journée, on se relève, on est mort de fatigue, mais tant pis, c'est pas grave, comme disent les musiciens, même Michel Berger, plein de musiciens, s'élever la nuit parce qu'ils ont une idée pour la marquer avant d'oublier, c'est pareil.
Guy Cuevas, vous êtes dans les studios d'Europe 1 et c'est un bonheur et un...
Et je viens de casser ton micro.
Mais c'est pas grave, si vous faites avec un grand sourire comme si on était au Palace. Vous êtes chez vous ici,
Merci.
Écoute un autre extrait de la compilation Total Cuevas de Guy Cuevas. On écoute Everywhere Merci. Is My Home.
Thank you. parte di casa con sfida. Forse come
d'écouter Everywhere is my home de Guy Cuevas. Guy Cuevas, DJ mythique. Vous êtes avant-gardiste dans le sens où vous avez précédé cette époque où aujourd'hui c'est les DJ qui ont pris le pouvoir. Oui. L'artiste français le plus écouté au monde est un DJ, c'est DJ Snake. Oui. Et j'aimerais qu'on l'écoute, ça va vous faire réagir.
En fait, j'aimais le son, j'étais à fond dans le son. Et j'étais plus le mec super timide à l'époque des booms, tu vois, à l'époque des booms où tout le monde danse, tout le monde a une petite copine. Et moi, j'étais le mec qui n'avait pas la cote et je voulais même pas danser, j'étais assez renfermé sur moi-même. Donc j'étais derrière la Chinifi dans l'angle avec mes CD de titres. Donc j'avais trouvé ma planque, quoi.
C'est ça, DJ, c'est en fait...
J'avais entendu Adela Rousse dire ça et je me disais, mais c'est la même chose pour moi au début, extrêmement timide, mais maladivement timide. Et on dirait que c'est son cas aussi. Voilà. Donc à un moment donné, il faut se faire violence, il faut y aller. Et même sa mère, qui est algérienne, comme il a dit hier, ben l'a poussée. Prends ta chance et bon, si ça ne marche pas, tu pourras toujours revenir. C'est ce que ma mère a fait également. Ma mère était morte de tristesse parce que j'étais le tout petit garçon qu'elle a eu tard. Mes deux sœurs étaient plus grandes que moi, j'ai 11 et 13 ans. Donc, bon, elle était omnibulée par moi. Mais comme j'écrivais déjà, elle se disait, oh, bon, j'ai un enfant poète. Et quand je lui annonçais que je voulais la quitter, bon, elle l'a fait.
Guy Cuevas, aujourd'hui, vous êtes aveugle.
Oui.
Vous avez perdu la vue.
Oui.
Est-ce que vous pouvez me raconter?
Ben, au départ, c'était un glaucome qu'on a découvert par hasard lors d'une visite médicale au Palace, encore justement. Parce que c'est mon époque, là, j'étais une baleine blanche hein, à ce moment-là. J'étais Moby Dick. Et non, je n'ai jamais été aussi gros qu'à ce moment-là. Peut-être l'alcool, boire une bouteille de champagne. Mais bon. Et à une visite médicale, on a découvert que j'avais un début de diabète et un glaucome. Mais on ne m'a pas expliqué, que sinon je ne suis pas un crétin, si on m'avait expliqué que je risquais de devenir aveugle si je ne mettais pas telle goutte, qu'on m'a prescrit, je les aurais mises. Mais comme j'étais jeune et insouciant, noctambule, je travaillais la nuit, je les oubliais. Bon, je les mettais de temps en temps, une fois par semestre. Tout voilà. Et après, les mal étaient faits. Maintenant, on explique très bien. Le médecin explique parce que vous et moi, n'importe qui, vous cliquez et on est mieux renseigné que le médecin par Internet. Maintenant, c'est trop tard pour moi, malheureusement.
Qu'est-ce que...
C'est le glaucome, donc surtout, qui m'a fait comme ça. Évidemment, tout ce qu'il y avait au palace, la fumée, la neige carbonique pour provoquer les brouillards, on avait beaucoup d'effets scéniques. Hein. On se servait vraiment comme dans le théâtre. On répétait. Et d'ailleurs, il y avait des concerts fabuleux. Peut-être que vous le savez. Il y avait Tina Turner, les premiers concerts de Prince, Bette Midler, Serge Gainsbourg, Tom Waits, Ricky Lee Jones... Gainsbourg, je viens de dire, oui, voilà, Sylvester, Amanda Lear, Nathalie Cole, George Benson, Esther Phillips, on a vu tout le monde aussi sur la scène à 8h30 et ensuite à 11h, ouvrir la discothèque.
Quand vous fermez les yeux, est-ce que vous revoyez des scènes?
Oui, totalement, oui, 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 oui. Et surtout là, depuis 2 ans où j'écrivais pour mon livre, j'ai dû me plonger, j'ai dû... J'ai une très bonne mémoire, très bonne. J'ai une mémoire de 3 éléphants. Mais là, quand même, je me suis trituré pour aller chercher des petits détails, comme Jean-François Clairvoyant m'exigeait. La couleur de la robe de ma mère, le jour où je lui ai dit que j'ai quitté Cuba. Au premier abord, je ne me rappelais pas.
Donc, quand on perd la vue, on peut garder la vue dans les souvenirs et dans la mémoire.
Peut-être pas tous les aveugles, hein, parce que j'en connais certains aveugles qui n'ont rien dans le cerveau, les pauvres. Alors je me demande, les pauvres, mais comment ils passent leur journée? Parce que déjà qu'ils ne voient rien, ils ne voient pas s'il n'y a rien là, comment ils font. Moi, heureusement que tout ça, c'est habité, c'est multi-habité. Je suis même encombré par moments de temps de souvenirs en même temps.
Guy Cuevas, votre livre est dédié à votre mère, mais également à Kenzo.
Et à France, à Fabrice.
Et à Fabrice et mère. Est-ce que vous pouvez m'expliquer Kenzo qui c'était et pourquoi Kenzo est également extrêmement important dans la culture française actuelle?
C'est mon frère. C'est mon frère, c'est mon ami, fidèle et constant. Voilà, je l'ai connu. On a grandi ensemble, on a grandi en même temps. Il venait déjà, il vendait encore ses dessins au printemps, au magasin du printemps, quand j'étais disjockey au nuage. Donc j'ai commencé mon métier, voilà, que donc on dit que j'ai inventé. Et lui, il commençait à vouloir créer sa société, Jungle Jap, etc. Il avait déjà d'être extrêmement, à grand cas, extrêmement timide, maladivement timide. On ne les voyait pas. Il y avait un casque de cheveux, les rébans et tout. Il ouvrait la bouche pour sourire, c'est tout. Il ne parlait pas non plus. Et moi et mes parents s'est adopté. Ils s'asseyaient à côté de moi sur un tabouret. Et puis je l'ai forcé à parler, hein, surtout. Ça ne venait pas de lui. Et quand on a commencé à sympathiser, qu'il a commencé à me montrer ses dessins, ses couleurs, ses fantasmes, etc., j'ai tout de suite décelé qu'il avait un énorme talent. Parce que c'était tout nouveau, c'était tout le contraire de ce qu'on voyait ici. C'était un océan de couleurs, d'imprimés, de fleurs, d'oiseaux, tout mélangé probablement avec des carreaux, des madrasses, mais la liberté totale.
Guy Cuevas, quand on pense à votre génération, où c'était finalement une bande de jeunes qui allaient faire la fête ensemble, quand on regarde, Kenzo a fondé un empire de la mode, tous vos potes ont fondé des choses incroyables, Karl Lagerfeld. Est-ce que vous aviez conscience que tout allait aller aussi haut, aussi fort?
Ah non, pas du tout. Non. Quand j'ai commencé à le... Même Kenzo, quand j'ai commencé à le fréquenter au nuage, il avait envie. Il n'était pas sûr de rester en France non plus encore. Il n'était pas sûr. Il voulait absolument rester ici. Parce que pour moi, depuis le Japon, il savait que c'était ici qu'il voulait habiter.
Et son chef,
on ne savait pas, mais j'ai croisé
cuisinier.
Thierry Mugler aussi, j'ai croisé Claude Montana, son chef cuisinier.
Toyo.
Ah oui, Toyo.
J'adore
la
le
cantine.
Restaurant de Toyo.
Oui, vous connaissez Toyo?
Oui.
C'est bien, la cantine, Boulevard Montparnasse, rue à l'angle.
C'est ça.
Oui, rue Jules Chaplin.
Ah, c'est un restaurant incroyable.
C'est bien,
ouais.
C'est bien, mais c'est multi-ethnique. Hein.
Ouais.
Oui, voilà.
C'est un de mes restaurants préférés au monde, et en fait... Toyo, j'explique qui c'est. C'était le chef cuisinier personnel de Kenzo.
Absolument.
Qui fait une cuisine française avec des produits
Absolument.
Japonais.
Filet de bœuf complètement français, mais avec de tofu à côté comme légumes, des petites sauces japonaises. Puis décorer l'assiette comme un tableau, comme ça, avec trois asperges sur les côtés. Une feuille, des marches ici. Voilà. Il y a le petit salon privé qui est délicieux aussi chez Toyo.
Guy
oui,
Cuevas,
moi aussi, j'aime beaucoup.
Vous avez perdu la vue, mais pas l'oreille. Donc la musique est toujours avec vous. Est-ce que ça vous maintient, la musique?
Jour et nuit. Grâce à Dieu, il y a Google Home. Hein. Un jour, pareil, j'ai saisi la chance. Un ami qui m'a dit que sa grand-mère aveugle n'en voulait pas parce qu'elle avait 90 ans, ça l'embêtait. Et il lui avait acheté ça, ce robot. Il me l'a amené. Mais ça a changé ma vie. Parce que déjà, que j'avais le problème que je ne pouvais pas reconnaître les CD. J'avais en plus un poste à antenne, comme avant, vous voyez, où le son était mauvais. Je ne savais pas dans quelle position le mettre. Ça craquelait. C'était une horreur comme son. Et puis surtout, je ne voyais pas les CD. Il fallait que j'écoute à trois quarts pour savoir ce que je voulais écouter. Là, le Google Home, il m'a changé la vie. Je lui demande n'importe quoi à la seconde, il me fait écouter.
Qu'est-ce que je peux vous souhaiter avant de vous dire au revoir?
Que tout continue, que ça ne s'arrête pas. Ou si ça s'arrête, que ce soit en douceur, que je ne m'aperçoive pas, que je me sente volé, plutôt. Volé, pas tomber, pas mourir, pas avoir des problèmes. Volé, léger, dans la musique. Hein, que je m'envole dans les notes de la musique.
Comme un oiseau dans la nuit.
Voilà.
Merci Guy Cuevas.
Merci.
Je vous aime
merci.
Très très fort.
Oh là là, merci.
Beaucoup d'amour pour vous.
Mais oh, que c'est gentil, merci beaucoup.
C'était Mouloud. Guy Cuevas dans Verven Underground sur Europe 1.
Merci encore de l'invitation.
On se retrouve après le flash de 21h. A tout de suite dans Verven Underground.
Verven Underground.
Vous êtes sur Europe 1, il est 21h.